Leur scandale, c'est ce que va démontrer la fraîche.
Climat, médiator. Environnement, sentiment amoureux, rivière. Exoplanète, sol, intelligence artificielle, douleur. Les coups de cœur 2015 de CQFD.
Et chaque matin pendant cette période de fête, un chroniqueur CQFD vient nous rejoindre ici pour nous faire part d'un de ses coups de cœur, effectivement, réalisés au cours de l'année 2015. Et aujourd'hui, c'est avec vous qu'on va faire ça. Cécile Guérin, bonjour Cécile.
Bonjour.
Plongée dans la Saint-Gine, ça c'est le programme que vous nous proposez. C'est la Saint-Gine, le dernier cours d'eau sauvage de Suisse. Une expérience que vous nous proposez donc aujourd'hui et qui vous a vraiment marqué lorsque vous avez pu la réaliser. C'était au début de l'été, hein, je crois.
Oui, c'est une espèce de moment magique qu'on vit parfois en radio avec cette double rencontre, d'abord de Michel Rogaud, un photographe dont je connaissais déjà les clichés de poissons d'eau douce empreints de poésie, mais là je le rencontre sur son lieu de prédilection, la rivière Saint-Gine, dans les brumes d'une pluie d'été. Pendant un moment, finalement, on se serait cru au fond d'un parc naturel du Grand Ouest canadien et nous étions à deux pas de Fribourg.
Alors ça, c'est un des reportages, on peut le rappeler, hein, on avait fait toute une série sur les rivières cet été, en plus durant cet été caniculaire, donc ça tombait bien parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ces rivières qui ont quand même pas mal souffert aussi.
Oui, hein. Et découvrir les rivières, c'était entrer aussi dans un monde où la biodiversité n'est pas un vain mot. À chaque cours d'eau, ben, il y a finalement une histoire, un parcours, des hôtes particuliers, mais aussi des problèmes de pollution trop souvent, des maladies, des poissons, la surexploitation avec les barrages. Mais heureusement, c'est vrai, les rivières ont leurs défenseurs, leurs connaisseurs, sont des naturalistes acharnés qui veulent préserver ces havres de nature, ces artères vitales pour tout le monde.
Et donc, en l'occurrence, c'est, vous le disiez, un amoureux de la Saint-Gine qui va nous accompagner ce matin.
Oui, Michel Rogaud, c'est le spécialiste international de la photographie d'eau douce. C'est un créneau assez particulier. Il a traversé les continents pour faire des images exceptionnelles des rivières vues de l'intérieur. Car s'il connaît la rivière et qu'il pêche depuis son plus jeune âge, c'est en fait par hasard qu'il découvre la photographie animalière lors d'une rencontre également déterminante avec les ours et les saumons d'Alaska, figurez-vous. Eh bien, depuis, il capte les images des poissons dans l'eau sans plonger, depuis la rive, avec des appareils qui sont posés sous l'eau. Ce n'est que très récemment, à plus de 60 ans, qu'il a plongé pour la première fois. En ce moment, depuis déjà quelques années, depuis 2011, il est avec ce projet qui s'appelle Freshwater Project, où il photographie 30 des plus spectaculaires cours d'eau du monde. Cet été, il a réalisé la dernière étape de ce projet au lac de Malawi avec des cichlidés, des poissons endémiques de ces régions. Et maintenant, il est en train de trier des milliers d'images pour préparer cette exposition prévue en 2017 au nouveau musée Aquarium Aquatis, là juste au-dessus de Lausanne.
Alors, Michel Rogaud, qui voyage beaucoup à travers le monde, il a encore le temps d'aller se plonger dans sa Saint-Gine ?
Exactement, il revient toujours à ses premières amours. La Saint-Gine, c'est vraiment là où il a rencontré la rivière. Pour lui, qui a vu les plus beaux cours d'eau du monde, cette rivière reste la plus belle, d'autant qu'aucun barrage ou retenue ou installation ne vient déranger sa Saint-Gine. C'est vraiment sa rivière. Ouais. Et ce matin-là d'été, sous la pluie, il nous fait le cadeau de nous emmener depuis un point de vue splendide pour voir la Saint-Gine serpenter dans la brume. Je la soupçonne, ah, je la vois un tout petit peu en contrebas, d'une forêt. C'est magnifique, hein. Un tapis de myrtilles, des arbres.
Attention, les racines.
Surtout ne pas tomber en contrebas, parce que là c'est le plongeon dans la Saint-Gine 100 mètres plus bas.
C'est le royaume des chamois, c'est plein de chamois qui descendent des montagnes. Alors en soi, la vallée de la Saint-Gine relie un peu les préalpes avec le plateau. Et il y a beaucoup d'animaux ou aussi de plantes qui sont en soi dans les Alpes qu'on trouve aussi. Alors il y a les chamois, mais il y a par exemple aussi la salamandre noire qui est en soi dans les montagnes, mais elle est là en bas.
Donc c'est comme un couloir aussi que c'est les ça. Animaux empruntent.
Oui, une rivière en état naturel est toujours les deux, elle relie, mais c'est aussi une frontière. Là, en dessous de nos pieds, là-devant, il y a aussi le faucon pèlerin qui niche. Alors, c'est vraiment extrêmement sauvage. Et c'est un coin que pratiquement personne ne connaît. Là où ce qu'on est, c'est très bien. Aussi à cause du faucon pèlerin.
Pour le protéger, hein, on va pas dire où on est alors. On est juste au-dessus de la Saint-Gine. Est-ce qu'on va voir quelque chose?
Vous voyez là en bas?
Oui, on la distingue.
Oh. Oui, c'est dommage, il y a le brouillard, voilà. Mais on la devine. Hein?
Tout à fait.
On la devine. Maintenant, il y a un petit coup de vent qui enlève le brouillard. Alors, vous voyez ces bandes gravier, n'est-ce pas là? Une fois la rivière, elle est à gauche, une fois à droite, elle transporte tout le gravier. On voit, il y a énormément de troncs d'arbres avec des souches sur les bandes gravier.
Donc, ça a arraché des arbres?
Oui, 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 avec la dernière crue qui était un peu plus importante. On a une très belle vue maintenant.
Hein. Ah, magnifique, du brouillard sur les côtés et au milieu coule la rivière.
Pour moi, c'est impossible qu'il y ait une plus belle image d'une rivière en Suisse que ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment une rivière en état d'innocence.
En tant que photographe, Michel Rogaud, vous êtes venu à la photographie un peu par hasard. Vous m'avez raconté vers 30 ans. Là, c'est un tableau.
Oui, oui. Et c'est aussi un chaos dans une certaine manière parce que c'est une structure très compliquée. Et si on vient en hiver ou après un orage, en été, c'est toujours complètement différent. En hiver, tout peut être complètement gelé, qu'on ne voit plus la rivière. Des fois, elle gèle. Des fois, elle passe. S'il y a plus d'eau par-dessus de la rivière, elle gèle de nouveau. Il y a comme un millefeuille qui a plusieurs couches de glace. C'est vraiment une chose extraordinaire. Mais ça va seulement parce qu'on n'a jamais touché cette rivière. C'est un pur hasard. Et c'est aussi comme photographe, je sens, même si je travaille, parce que je travaille surtout sous l'eau, hein, et même si je travaille sous l'eau, je sens si en amont, il y a une centrale hydroélectrique ou pas, s'il y a un barrage. Si on marche sur le gravier, c'est très mou, on s'enfonce tout le temps dans une rivière naturelle. Si en haut il y a un barrage, alors la rivière elle colmate, ça vient dur comme du béton.
Parce qu'il y a beaucoup de sédiments. Hein?
Parce qu'il n'y a plus les crues aussi. Hein? Ou peut-être ils ouvrent une fois les vannes en catastrophe, alors ça arrache tout. Et surtout, il n'y a plus d'apport de nouveaux graviers. Parce que là, si la Saint-Gine, elle descend le gravier, elle apporte d'autres graviers à sa place. Elle arrache des arbres, elle fait de la place pour la prochaine génération d'arbres. Alors c'est un peu le moteur de l'évolution parce qu'elle force les animaux, les plantes à s'adapter à ces conditions extrêmement changeantes et très difficiles. Alors c'est pour ça qu'il y a telle masse de vie, de forme de vie dans cette rivière. Ça me fait penser, il y a 3 semaines, j'étais dans la Temnik, en Sibérie. Là, j'avais la même impression parce qu'on était vraiment dans une région extrêmement sauvage et j'ai travaillé là aussi sous l'eau et je me disais, oui, c'est comme la Saint-Gine. Elle était un peu plus grande, c'était entre Saint-Gine et Sarine, mais c'est toujours un énorme plaisir de voir une telle rivière et de savoir, oui, on en a encore une en Suisse. Encore une.
Alors une seule.
Alors qu'on la laisse en paix. Hein.
On entend que vous défendez votre rivière et vous avez bien raison parce que c'est vrai que c'est extraordinaire.
Là, la vue, elle est encore plus belle, mais c'est très dangereux parce que là, ça descend vraiment 100 mètres directement devant nos pieds.
Donc là, en largeur, elle fait quoi? Une vingtaine de mètres de large, la Saint-Gine?
La rivière elle-même, oui. Oui. Mm-hmm. Et la vallée, elle est un peu étroite ici. Elle fait peut-être, je ne sais pas, peut-être... ça trompe, ça fait quand même peut-être 200 mètres. Hein, elle peut être un peu plus large. Mais là, c'est la falaise la plus haute. Le long de la Saint-Gine. Alors c'est vraiment la vue parfaite. Maintenant, on voit tout le cours d'eau.
Le cours d'eau qui est aujourd'hui de couleur, on va dire, marron clair, hein, avec la pluie qui est arrivée. Oui. D'habitude, c'est quelle couleur, Michel Rougaud, où ça varie
Bien, elle est absolument cristalline, l'eau. Alors, on voit tout simplement les cailloux, comme ce n'est pas très profond. Hein. Il y a des endroits peut-être qui sont un peu plus profonds, qui ont peut-être, je ne sais pas, 4-5 mètres, même un peu plus des fois. Là-bas se tiennent en été des barbeaux. Et ça, c'est une chose assez spéciale. Il y a peut-être 20 ans en arrière, j'avais beaucoup photographié dans la Saint-Gine et je voulais voir où s'est photographié des poissons en hiver. Je n'ai pas vu un seul poisson. Zéro. Alors, que se passe-t-il? Les barbeaux, on le sait, ils font des migrations, ils descendent. La Saint-Gine descend jusqu'à l'entrée de la Sarine dans l'Arre. Un biologiste les a une fois vus en plongeant à 20 mètres de profond dans l'Arre. Il y avait des milliers de barbeaux. Alors, ils migrent et en été, ils remontent. Et là, dans chaque gouille, qu'on ne voit pas maintenant, comme là, les troubles, mais il y a en été, jusqu'en automne, il y a peut-être une dizaine, quinzaine de grands barbeaux. En plus, il y a des truites et en hiver, on a la peine à les voir, mais ce n'est pas impossible. Des fois, les truites, au moins, moi, je l'ai observé, je sais que des scientifiques l'ont aussi observé, que les truites, des fois, même, ils se creusent dans le gravier. J'ai vu devant mes yeux une truite qui se creuse dans le gravier jusqu'elle a disparu. C'est un peu bizarre, moi, je ne peux pas me l'expliquer. Je ne sais pas si c'est peut-être pour passer l'hiver, aucune idée.
Les poissons vivraient dans la terre un peu, quoi, dans les graviers.
Je sais, les tanches le font, ils s'enfoncent dans le vase, ils sont plusieurs très proches un à côté de l'autre. Peut-être ça monte la température un tout petit peu, peut-être ça peut suffire quelque chose. Mais de la truite, je ne le sais pas. Mais au moins, je n'ai rien vu et c'est assez étrange parce qu'en principe, je sais où sont les truites.
Pleuvoir.
Je trouve que c'est aussi beaucoup plus beau dans une journée de pluie. Comme photographe, je fais des paysages, j'aime la pluie. Les couleurs sont saturées, sont nettoyées, pas de poussière. C'est une très belle lumière. C'est vraiment... Ce serait un moment parfait pour faire des images maintenant.
Vous n'avez pas pris votre appareil?
Non.
Sur le chemin. Alors nous sommes descendus du promontoire qui est surplombé la Saint-Gine. Une immense étendue de galets, du sable. Donc là on est en train de marcher sur des galets, du sable, on est dans le lit de la Saint-Gine.
Oui, on est dans le lit de la Saint-Gine. Alors, il y a beaucoup de sable, il y a les grands galets, tout ça. Et là où ce qu'on est, il y a quelques mois, j'avais photographié là, c'était plein de l'eau. Maintenant, la rivière a peut-être une largeur d'une dizaine, vingtaine peut-être. Et là, elle avait une largeur de 200 mètres. Elle entre là dans la forêt. Et on devine aussi là tous ces restes de petites gouilles.
Il y avait des poissons.
Oui, il y a des fois aussi un peu du poisson. Alors quand l'eau recule dans la rivière, il y a les oiseaux qui viennent pour manger tout ça. Alors ça fonctionne très bien.
Les galets, c'est des galets, on va dire, gris clair, jaune clair. C'est du grès. Hein, et c'est ces galets que vous allez photographier parce que votre passion, Michel Rougaud, c'est de prendre des photos de l'intérieur de la rivière. Et ça vous est venu comment cette idée?
Moi, je pense que la pêche, que j'avais fait la pêche à la mouche, y est pour beaucoup de choses, parce que j'avais commencé relativement tard à pêcher à la mouche. Et on observe le poisson, par exemple une truite ou un ombre, on observe ce qu'il prend comme insecte. On voit le poisson déjà, alors on voit s'il est trop petit ou s'il est assez grand. Et ensuite, il faut essayer de lancer cet insecte sur la surface de l'eau qui ne s'aperçoit pas qu'il y a encore un petit bout de nylon. Alors, quand j'ai réalisé toute cette complexité de vie sous l'eau, ça m'a commencé à m'intéresser. Et gentiment, j'ai commencé à photographier. Au début, c'était l'intérêt, je vais photographier un poisson. Maintenant, ça a complètement changé. Plus tard, c'était le poisson dans son milieu naturel. Et maintenant, je cherche des images. Ça peut être n'importe quoi. Tout m'intéresse, les formes, les compositions, la lumière, tout ça. Alors, ça peut être un animal, des plantes, ou le lit de la rivière, les rochers, tout ça. Par exemple, si je suis dans la Verchaska au Tessin, ce sont ces formes du gneiss qui m'intéressent, avec le jeu de la lumière. Alors, c'est vraiment de la photographie maintenant. Au début, c'était plutôt documentaire. Maintenant, c'est plus du tout documentaire, non. Je m'apercevais qu'on ignorait beaucoup de choses et surtout on n'avait pas d'image de la vie ou du monde aquatique dans l'eau douce. On connaît de la télévision ce qui se passe dans les océans. On a tous vu ces films avec les baleines, du Barrier Reef en Australie. On connaît tout ça, mais on ne connaît pas la vie dans un petit ruisseau. Et souvent, c'est d'une beauté extraordinaire et complètement surprenante.
On n'a pas idée, mais quand on voit dans vos photos, notamment de la Saint-Gine, hein, puisque là, on est proche de la Saint-Gine, toutes les couleurs sont possibles, etc., alors qu'on n'a jamais eu la curiosité d'aller voir en dessous.
Oui, et moi aussi, ça, c'était un peu bizarre, parce que moi, j'avais toujours dit que la Saint-Gine, elle n'est pas intéressante pour photographier sous l'eau. Et je la connais bien, hein, depuis un demi-siècle. Hein. Et il y a peut-être 3-4 années, une fois, j'en avais marre du bureau de travail. J'ai pris un petit appareil photo subaquatique. Je crois que c'était octobre, novembre. Je suis descendu la Saint-Gine, là où on est, là. Et pendant 3 jours, j'ai photographié peut-être 10, 11 heures jusqu'à 2, 3 heures. Alors, je me baladais seulement dans l'eau avec les bottes. Je tenais l'appareil dans l'eau, je faisais des clichés, je contrôlais un peu ce que ça donnait hein, sur la caméra. Et aujourd'hui, je sais, oui, on peut aussi, dans cette rivière, on peut faire de très belles images. Parce qu'il n'y a pas de plantes aquatiques, ou très rarement. Mais comme c'était l'automne, d'un coup, j'ai vu, oui, il y a des feuilles qui descendent en hiver. Et dans des parties calmes, il y avait des couches de feuilles. C'était absolument féerique sous l'eau. Hein. Et je suis retourné aussi en hiver, plus tard, quand il y avait de la glace et tout ça. Et oui, aussi dans cette rivière, qui est extrêmement beau en dehors, elle est aussi beau sous l'eau, mais c'est un peu plus difficile à découvrir.
On va se rapprocher un peu de l'eau pour parler de ces poissons que vous photographiez. Là, l'eau était un petit peu trouble, hein, du fait de la pluie. Et dans vos photos, Michel Rogaud, on voit vraiment, par exemple, quand vous photographiez les truites ou les poissons en général, vous les prenez comme si on pouvait se mettre dans l'œil de la truite, en fait. C'est un peu ça que vous cherchez ?
Oui, c'était toujours mon idée. J'aimerais être au niveau des poissons, de l'œil du poisson. Et c'est pour ça que j'avais aussi... Essaye de développer des systèmes que je peux travailler à télécommande et pas de plonger, parce que si on plonge, le poisson, il part, hein, la plupart.
Vous êtes au bord de la rivière, vous avez mis votre appareil dans l'eau et vous le...
Oui, et j'attends. Je fais une composition et je photographie. Et si je veux qu'il y ait un poisson là-dedans, j'attends qu'un poisson entre dans la composition. Et ça peut m'arriver que ça dure plusieurs jours. J'avais une fois vu dans un bras mort de l'art une très belle composition d'algues. C'était un peu comme en Amérique, là, ces immenses rochers là, au milieu du désert,
oui, n'est-ce pas ? Comme le Colorado, comme ça.
Comme le Colorado, ouais. Oui,
si en vert,
des canyons, oui. D'une extrême beauté. Et je voulais avoir au bon endroit un poisson. Il y a carpe, brochet, des couleuvres, un peu tout là-bas dedans. Alors j'ai placé l'appareil, j'ai vu la composition et j'attendais. Et le troisième jour, il y a 2 carpes. Qui venait gentiment, qui tournait autour de cette composition, traversait le milieu devant la caméra. Et j'ai eu la photo, c'est une très belle image. C'est pas un hasard. J'ai vu depuis l'extérieur, j'ai eu cette image et je l'ai eue, mais c'est 3 jours d'attente. Mais ça vaut la peine, n'est-ce pas? C'est aussi une image que souvent a été publiée. Et des fois, il faut travailler de cette manière. Alors, ce n'est pas trop à l'hasard. C'est,
la patience.
On a une idée en tête et on essaye de la faire, oui.
Beaucoup avec, par exemple, des biologistes qui sont spécialistes des poissons.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai aussi régulièrement aussi des téléphones, soit de pêcheurs, de garde-pêche, de biologistes qui ont observé quelque chose, qui me disent, tu dois aller photographier ci et ça, et alors je vais. Ça, c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'aident, oui, ça, c'est vrai. Je dois beaucoup travailler, je ne me laisse jamais décourager. Si ça ne marche pas, aucun problème, on retourne. Par exemple, pour avoir des images de saumon, j'ai travaillé pendant 20 ans, j'ai seulement trouvé les bonnes conditions. Et là, après 5 minutes, j'avais les images. Je continue encore 5 jours, mais il fallait trouver une rivière où il y a des saumons, parce que je voulais beaucoup, je voulais la masse de saumon. Que l'eau est claire, capter du soleil, qu'on me laisse photographier, parce qu'il y a des saumons, il y a des pêcheurs, ils payent 1 000 $ par jour pour y pêcher, alors on ne veut pas un photographe qui est là devant leur nez. Et un jour, tout a marché, mais c'était après 20 ans, j'avais peut-être fait une vingtaine de voyages, c'était en Écosse, en Norvège, mais je voulais à tout prix avoir le saumon atlantique, et finalement je l'ai trouvé au Canada, dans un système de rivière, mais là aussi c'était le troisième voyage. J'étais 3 fois au même endroit, et un jour c'était le jackpot, tout était parfait. Et le saumon, c'est peut-être à comprendre parce que là où ce qu'on est, il y avait du saumon.
Et si quelle année il y avait du saumon ? 19e siècle ?
Oui, avant l'industrialisation, avant qu'on ait fait des barrages, hein, qui ne pouvaient plus monter. Parce qu'ils montaient de la mer du Nord dans le Rhin, dans l'Aar, après Sinophile à droite, dans la Sarine. Hein, ils remontaient là, Sinophile à gauche, à Flamatte, dans la Saint-Gilles, et ils frayaient là. Ici.
Ici où on est.
Oui, et il passait aussi, comme je suis né de Fribourg, j'ai fait l'école en Basse-Ville. Là-bas, il montait, où il y avait la patinoire, plus tard, où il y avait Gautheron, hein, en bas la Sarine. C'était une immense gouille. Et là-bas, les saumons attendaient juste qu'ils étaient mûrs, à monter jusqu'en Gruyère, vers Ennet, au pied du château de Gruyère. C'est là qu'ils frayaient et qu'ils essayaient de retourner de nouveau dans la mer du Nord. Hein. Bien sûr, on a plus ça. Hein? Et ce n'est pas le seul poisson migrateur qui a disparu. Là, il y avait aussi chaque année des anguilles qui passaient. Ils montaient de la mer de Sargasse, là-bas vers Bermuda, par là-bas.
Depuis l'Amérique.
Depuis l'Amérique, ils traversaient l'Atlantique, ils montaient le Rhin, blablabla. Ils passaient par là, ils allaient jusqu'au lac Noir aller regarder les vaches. Hein? C'est fantastique. Et retournaient de nouveau. Hein?
Il n'y en a plus.
Bien sûr, ils ne peuvent plus migrer, c'est ça le problème. Même pour la migration des autres poissons, les nazes par exemple, ils étaient toujours dans la Saint-Gilles, mais à un moment, on avait construit un petit seuil dans la rivière à Flamatte. Alors, ils ne pouvaient plus monter. Alors, ils frayaient seulement sur quelques centaines de mètres. Plus tard, on a vu un problème. On a détruit le seuil, ils peuvent nous migrer, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de nazes. Ils ont disparu. Quand j'étais gamin, à la Basse-Ville, on voyait à côté de l'école des Nègles, il y avait des dizaines de milliers de nazes qui frayaient. La rivière elle était noire. Aujourd'hui, zéro.
Mais vous croyez qu'un jour, le saumon pourrait revenir dans la Saint-Gilles ? Impossible avec tous les barrages.
Saint-Gilles, c'est difficile, mais je dirais jusqu'à Berne, oui. Et il y a le WWF qui a un peu comme but dit, on essaie de faire monter le saumon jusqu'à Berne. L'intérêt, effectivement, n'est pas le saumon. On dit, on aime aider le saumon parce que c'est un animal énigmatique, on le connaît, hein, c'est spectaculaire, mais il y a beaucoup d'autres formes de vie qui profitent aussi.
Vous y croyez, ça marchera qu'ils reviennent à Berne ?
Oui, bien sûr, aucun problème. Il y a peut-être une douzaine de barrages qu'on doit un peu changer, qui peut monter, mais c'est possible.
le retour du saumon, donc peut-être
en Suisse.
Voilà, ça serait une bonne nouvelle. En tout cas, Michel Rogon, on l'a entendu, est très optimiste à ce propos. La Saint-Gine, on a un peu de recul hein, maintenant, puisqu'on le redit, hein, Cécile Guérin, ce reportage, vous l'avez proposé cet été hein, dans CQFD. On a 6 mois de recul par rapport à cet été caniculaire. Est-ce qu'on peut dire que la Saint-Gine a souffert comme beaucoup d'autres cours d'eau en Suisse?
Oui, tous les cours d'eau ont souffert du manque d'eau hein, cet été. Et Michel Rogon est allé à la pêche, taquiner la truite, parce qu'il le fait aussi, il ne fait pas que des photos de poissons. Il est allé voir s'il y avait des truites, aucune truite. Et alors qu'il est retourné plonger dans les eaux avec masque et tuba dans une gouille assez profonde, là il a vu énormément de poissons, des barbeaux, des chevennes, mais seulement 3 truites. Alors du coup il a mesuré la température de l'eau. Et l'eau était à plus de 20 degrés cet été, ce qui est vraiment fatal pour ce poisson. Quand il y a des périodes où l'eau dépasse les 15 degrés, la truite en fait attrape une maladie qui s'appelle la maladie rénale proliférative, nous en avions parlé. Ouais. Et bien c'est ce qui s'est passé dans la Saint-Gilles. Les truites ont eu vraiment beaucoup de mal cet été. Elles sont mortes. Le réchauffement climatique a des conséquences directes et visibles chez nous, dans nos rivières.
CQFD sur la première.